Huitième jour avec Claire Bressolet.
Le héros, l'aventurier et le saint. Le 19e siècle a été fasciné par le héros. C'est Napoléon qui va en être l'incarnation. C'est un héros qui sort vraiment des clichés parce qu'il n'est pas noble. Il vient du peuple et il fait une ascension qui va jusqu'à empereur. Il le fait lui-même, il se sacre lui-même. Héros, qui est aussi un stratège militaire. Bon, le plus beau, c'est Austerlitz. Sur un lac de glace, on met des canons de part et d'autre, on attire les ennemis dans le camp des Français vidé. On leur tend un piège, on tire sur la glace et Napoléon est victorieux. Mais le soleil d'Austerlitz connaîtra la pluie de Waterloo, puisqu'au lieu de commencer la bataille à 8 heures du matin comme prévu, Napoléon ne la commencera qu'à 10 heures et les troupes de Bulow rejoindront les troupes anglaises de Wellington et ce sera terminé pour Napoléon. Donc ce héros va fasciner toute la jeunesse, c'est le mythe napoléonien. Fascination jusqu'à un certain point. Quand on regarde Confession d'un enfant du siècle de Musset, on sent que la jeunesse a été volée. Cette jeunesse qui partait, justement, à l'armée. Vous en avez un écho dans Le Dormeur du Val, un soldat jeune. Le fait de postposer l'adjectif chez Rimbaud veut dire un soldat récemment enrôlé. Et donc, insiste encore plus sur le drame de ces guerres sanglantes et la perte de la jeunesse, d'une jeunesse inexpérimentée qui allait, comme on dit vulgairement, à la boucherie. Mais la notion de héros l'emporte. D'où vient-elle? Elle vient de Homère. Le héros, c'est le héros de l'Iliade, c'est-à-dire un guerrier. Dans les deux camps, il y en a. On a les Achéens avec Agamemnon. En face, on a les Troyens. Que ce soit Achille, Hector, Patrocle, Ajax, Ulysse, ils sont tous héroïques à un titre ou à un autre. Quel portrait robot pourrait-on faire? Alors Achille, c'est un portrait sublime, parce qu'il a été élevé à la dure, mangeant des entrailles de sangliers et d'ours pour en avoir la force, béni des dieux, tenu, vous savez, par le talon pour être trempé dans une potion qui le rend invincible, invulnérable, sauf au talon. Donc on a des héros forts. Ulysse va représenter, lui, la ruse, la stratégie. Le héros du cheval de Troie, et puis, dans l'Odyssée, les 10 ans de retour à Ithaque, c'est le héros qui est quasiment un demi-dieu. Il peut entendre les sirènes et rester vivant. Ce qu'aucun humain n'aura fait, lui l'aura fait. Donc on voit bien que le héros, il a une force physique hors du commun et une intelligence hors du commun. Athéna, quand même, est du côté d'Ulysse. Athéna, ce n'est pas n'importe qui. Elle est la déesse de la guerre et la déesse de la métisse, cette intelligence. Souvenez-vous de sa naissance, elle sort du crâne de Zeus. Donc, on a le héros qui cumule, on va dire, deux attitudes. Et la force physique et la force morale, l'intelligence, la ténacité, la persévérance, le courage, on pourrait dire qu'ils vont s'intérioriser. Ces deux attributs du héros qui sont extérieurs dans l'Iliade s'intériorisent. Où et quand? Dans l'épopée médiévale, on garde bien sûr la force, passons à Roland, à Roncevaux, mais on a le code de l'honneur. On a le code de l'amour courtois. Regardez Lancelot et la reine Guenièvre, la légende arthurienne. Le roman arthurien et le héros médiéval vont garder les qualités du héros épique de l'Iliade et rajouter une autre note qui demande plus d'intériorité. Il faut un an très souvent au chevalier pour aller faire des épreuves et revenir devant sa dame. Qu'en est-il au XIXe siècle? Le héros, eh bien, dans mon œuvre fétiche, que sont Les Misérables, devient un saint. La force est tellement intériorisée, elle a servi bien sûr à Jean Valjean, elle lui sert plusieurs fois, évoquons l'épisode de la charrette, le père Fauchelevent est sous une charrette qui s'enfonce dans la boue. Et Jean Valjean risque d'être reconnu s'il y va, il cherche toutes les autres solutions, le cri, que la force des gens, personne ne veut y aller. S'il y va, l'œil de Javert qui est sur lui risque de le reconnaître parce que Javert a vu au bagne un forçat doté d'une force surhumaine et peut faire le lien. Mais Jean Valjean, y va quand même après une lutte intérieure. La lutte intérieure va toujours déboucher dans Les Misérables sur le choix le plus dur. Donc on passe du héros au saint. Et le plus dur pour aller sauver une brebis perdue. Un pauvre, un homme âgé. Un homme qui peut être aussi un voleur. Comme Champmathieu aux Assises d'Arras, après tout. Jean Valjean aurait pu rester et faire du bien. Mais que voulait dire faire du bien alors qu'on a menti pour se dédouaner et qu'on a laissé un innocent être condamné à sa place? La force physique, on la rencontre à Paris. Quand Jean Valjean franchit, tel un Spider-Man, le mur du couvent du Petit Picpus en menant Cosette dans les airs. La force physique, on l'a quand la troupe Patron-Minette, illustrée par Thénardier, qui en est le chef, tend un guet-apens à Monsieur Madeleine, c'est-à-dire Monsieur Leblanc, reconnu, eh bien Jean Valjean prend le tison qui lui était destiné pour le faire souffrir et le faire parler, il se l'applique, la chair brûle, chauffe, mais on voit qu'il est doté d'une capacité à endurer hors du commun. Et la force morale, eh bien je l'ai dit, c'est cette capacité à faire toujours le choix de l'humain. Et donc c'est la figure du saint. Quelle est la figure de l'aventurier? C'est Jules Verne qui nous la propose. Alors, regardons Phileas Fogg. Phileas Fogg est-il un héros? Non, parce qu'il ne va pas sauver un peuple. Dans la notion de héros, il y a l'idée de sauver un peuple, de faire grandir un peuple. C'est l'Iliade. Une guerre, c'est pour sauver une nation. Et Phileas Fogg fait un pari. C'est montrer la scientificité qui permet de faire le tour du monde en 80 jours. C'est un défi scientifique tourné vers lui, c'est un pari. Nous sommes dans une littérature scientifique, le capitaine Nemo, le Nautilus, c'est très technique. Mais voilà, c'est un aventurier qui va avoir des épreuves, des contrariétés, mais qui fait ça de lui à lui.